Vous écoutez, on lit pour vous.
Le sens de l'orientation comme repère. Un texte de Mathieu Perrault paru le 3 mai 2026 dans la presse. De récentes avancées scientifiques sur le sens de l'orientation pourraient bientôt permettre de dépister la démence de 5 à 10 ans plus tôt. Ces dernières années, il y a eu un certain nombre d'études qui ont montré que le sens de l'orientation est affecté au début de la maladie d'Alzheimer, explique Adrien Perrache, neuroscientifique à l'Université McGill. L'an dernier, il y en a eu deux en particulier, sur des cerveaux post-mortem et dans des études longitudinales, qui ont montré que le sentiment d'être désorienté et les modifications dans la zone du cerveau qui est liée à l'orientation sont présentes très tôt dans l'Alzheimer. Le sens de l'orientation est distinct de la navigation spatiale, c'est-à-dire la capacité de se souvenir du chemin entre le chalet et le travail ou la maison d'un ami. Par exemple, si je suis un peu perdu et que je vois le Mont-Royal, ça m'oriente, dit M. Perrache. Je ne sais pas exactement comment aller à ma destination, mais ça me dit généralement où je suis à Montréal. Ou alors, je sais que si je veux revenir à l'endroit d'où je viens, je peux revenir sur mes pas. Le sens de l'orientation permet de faire des détours simples. C'est comme la boussole de notre cerveau. Une étude du neuroscientifique publiée en avril dans Nature portait sur cette boussole interne chez le rat. Les chercheurs ont exposé leurs cobayes à des lieux nouveaux durant quelques semaines, ce qui a modifié la région du cerveau responsable de la mémoire. Mais la région du cerveau où se trouve la boussole interne, responsable du sens de l'orientation, restait stable au fil des découvertes de lieux nouveaux. En d'autres mots, cette boussole interne fournit une base très stable pour interpréter les informations spatiales de la mémoire, explique M. Perrache. Si les structures de la mémoire dans le cerveau changent sans cesse, comment nos souvenirs restent-ils aussi stables? Dépistage. Si un test permettait d'évaluer les troubles du sens de l'orientation, il serait peut-être possible de dépister beaucoup plus tôt la démence. Actuellement, le seul dépistage est fait avec un test de trouble cognitif léger, TCL. Si le test TCL est positif, un dépistage plus serré de la démence est fait par la suite. La démence apparaît souvent un an ou deux après un test TCL positif. Si on avait, pour le sens de l'orientation, l'équivalent du test TCL, on pourrait peut-être dépister la démence de 5 à 10 ans avant l'apparition des symptômes, évalue M. Perrache. Ça pourrait permettre de découvrir de nouveaux médicaments qui retardent les symptômes plus sévères s'ils sont donnés dès qu'il y a une atteinte du sens de l'orientation. De tels tests et médicaments existent pour le Parkinson, note-t-il. Au Centre allemand pour les maladies neurodégénératives, DZNE, des chercheurs travaillent depuis 2012 à l'élaboration de tels tests du sens de l'orientation. La plupart des travaux sur la démence portent sur la mémoire à long terme, souligne Mme Sagan. Des résultats préliminaires sur un test d'orientation permettent de penser qu'on pourrait détecter dès l'âge de 25 ans une prédisposition à la démence. Le test d'orientation de DZNE, appelé intégration de parcours, utilise des casques de réalité virtuelle. Madame Sagan estime qu'il pourra être utilisé cliniquement dans moins de 20 ans, possiblement même 10 ans. Il y a déjà des projets pilotes de tests avec des casques de réalité virtuelle en Grande-Bretagne pour le diagnostic différentiel entre plusieurs types de démence, note-t-elle. À titre de comparaison, le test TCL a été utilisé en recherche pendant 20 ans avant d'être utilisé pour le dépistage clinique. Pour le moment, le test TCL ne mène pas à la prise de médicaments retardant l'apparition des symptômes de démence. réfléchir en marchant. La prématurité de l'atteinte du sens de l'orientation avec la démence pourrait aussi être impliquée dans un autre test de dépistage précoce en préparation. Il s'agit de tâches doubles, où on pose des questions simples, une soustraction ou nommer le plus possible d'animaux, par exemple en mesurant la vitesse de marche du patient. La vitesse de marche durant les tests de double tâche semble un bon prédicteur du risque de démence, dit Rachel Downey, neuropsychologue à l'Université Concordia. Elle vient de publier dans Frontiers in Aging Neuroscience une étude montrant que des exercices physiques et cognitifs permettent d'améliorer la performance aux tests de double tâche chez les patients ayant eu un test TCL positif. L'étude portait également sur les troubles auditifs, qui diminuent les résultats aux tests de double tâche. Il se pourrait que le sens de l'orientation soit affecté par les troubles auditifs, parce que nos sens jouent un rôle important dans l'orientation, dit Mme Downey. Évolution. La presque totalité des espèces vivantes a un sens de l'orientation, note M. Perrache. Ça semble être un aspect important de la cognition, parce que le sens de l'orientation est apparu plusieurs fois de différentes manières dans l'évolution. Les sens de l'orientation des abeilles ou des mouches sont différents de celui des mammifères, qui est différent de celui d'autres vertébrés. Les neurones du sens de l'orientation humain ont une activité très particulière. Ils ne sont actifs que lorsqu'on ne bouge pas la tête. La seule exception est durant le sommeil. Il se peut que l'une des fonctions des rêves soit de maintenir inactifs les neurones du sens de l'orientation, indique M. Perrache. Quand ces neurones sont actifs, il y a un coût énergétique pour le cerveau, avec la production de toxines, dit M. Perrache, qui est également cofondateur du Réseau québécois de recherche sur le sommeil. Je pense que les neurones du sens de l'orientation sont des sprinteurs. Ils sont très bons pour courir un 100 mètres, mais si on leur demande de courir un marathon, d'être actif une grande partie de la journée parce qu'on bouge moins la tête qu'avant, ils sont désavantagés. Ça expliquerait pourquoi ils sont affectés par l'âge, qui augmente le risque de démence. Cela mène à des hypothèses intéressantes sur la prévalence plus importante de la démence dans nos sociétés modernes. Le traitement de facteurs de risque comme l'hypertension et la baisse du tabagisme ont fait baisser le risque de démence entre les années 1970 et 2010, mais l'augmentation de l'obésité et du temps passé devant des écrans semble enrayer ce progrès. En général, l'inactivité plus importante ainsi que le travail de bureau dans les sociétés modernes augmente l'activité des neurones du sens de l'orientation. Cette surexcitation des neurones du sens de l'orientation pourrait donc augmenter le risque de démence, dit M. Perrache. L'explosion du temps passé devant les écrans, pendant lequel on ne bouge pas beaucoup la tête, pourrait poser problème en augmentant la quantité de temps où les neurones du sens de l'orientation sont activés. En savoir plus, 187%. Augmentation prévue du nombre de cas de démence au Canada entre 2020 et 2050. Source, Société Alzheimer. C'était « Le sens de l'orientation comme repère », un texte de Mathieu Perrault paru le 3 mai 2026 dans La Presse. Thank you.
Le vrai visage du vapotage. Un texte de Laurence Niozi, paru le 9 décembre 2025 dans Québec Science. Après plus de 10 ans d'usage répandu, la vapoteuse révèle un visage inquiétant. Dépendance chez les jeunes, risques pulmonaires et effets à long terme encore largement inconnus. À 16 ans, Christopher n'a jamais fumé la cigarette, mais il vapote tous les jours. Il a commencé par curiosité pour faire comme ses amis, puis s'est laissé séduire par les arômes fruités qui circulent encore, malgré leur interdiction récente au Québec. Ses préférés, melon d'eau et raisin. Au début, ça me relaxait, mais maintenant, ça ne me fait plus rien, admet l'adolescent rencontré par l'entremise de la Maison des jeunes de Granby, un lieu qu'il fréquente. À l'école, la vapoteuse est partout. Des dizaines de ses camarades en sont également adeptes. À la maison, l'adolescent s'isole dans sa chambre pour enchaîner les bouffées. Il voudrait bien cesser de vapoter, mais chaque tentative de sevrage lui coûte. Les maux de tête reviennent aussitôt. Il avait réussi à tenir 3 mois sans vapoter, mais a finalement rechuté. La cigarette électronique, communément appelée vapoteuse, est un dispositif rechargeable ou jetable qui chauffe un liquide contenant de la nicotine pour produire un aérosol inhalable. Introduite sur le marché il y a une 20aine d'années, elle a longtemps été présentée comme une aide pour les fumeurs et fumeuses souhaitant réduire ou arrêter le tabac. Chez ces adultes motivés, certaines études montrent qu'elle peut parfois être plus efficace que les gommes ou les patchs pour la cessation tabagique. En revanche, chez les jeunes ou les personnes qui ne fument pas, le bilan est très différent. Le vapotage crée une dépendance à la nicotine et expose à des risques pour la santé bien réels, même s'ils sont moindres que ceux des cigarettes combustibles. Devant cette réalité, plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la France et la Belgique, et certains États américains, ont interdit cette année les cigarettes électroniques jetables, des modèles pré-remplis à usage unique, particulièrement prisés des adolescents et adolescentes. Le Canada a, de son côté, publié en août de nouvelles lignes directrices. Dans la plupart des cas, nous suggérons d'éviter le recours à la cigarette électronique à des fins de cessation tabagique en raison de l'incertitude concernant l'usage de produits de vapotage non approuvés, de leurs méfaits potentiels à long terme et de leur impact sur la santé publique, lit-on dans le journal de l'Association médicale canadienne. Partout, ces mesures traduisent une même inquiétude des autorités quant à l'attrait de ces produits et aux risques qu'ils posent, en particulier pour les jeunes. Un cocktail louche. Ainsi, même si la cigarette électronique n'implique pas de combustion, de nombreux composés dissous dans les liquides de vapotage sont loin d'être inoffensifs. En effet, ces solutions contiennent en majorité un mélange de propylène glycol et de glycérine qui, lorsqu'il est chauffé, dégage des composés irritants, voire cancérigènes, formaldéhyde, acétaldéhyde, etc. De plus, l'innocuité des nombreux agents aromatisants n'est pas toujours démontrée, notamment par inhalation. Finalement, une équipe de l'Université Johns Hopkins a recensé plus de 2000 composés chimiques dans les aérosols des vapoteuses, la grande majorité étant de nature inconnue. La science commence à documenter les effets de ces composés sur la santé. Les premières alertes sérieuses sont apparues aux États-Unis en 2019 avec les cas de pneumopathie sévère associés au vapotage, surnommé EVALI en anglais, E-Cigarette or Vaping Use Associated Lung Injury. Cette affection provoque toux, essoufflement, fièvre et douleurs thoraciques, menant parfois à l'hospitalisation. l'inhalation de produits contenant du THC, soit le tétrahydrocannabinol, l'ingrédient actif du cannabis, et de l'acétate de vitamine E, un additif visqueux présent dans certains liquides de vapotage, avait été montré du doigt. Au total, environ 2800 cas avaient été signalés aux États-Unis en quelques mois, dont 68 décès. Le retrait de l'acétate de vitamine E avait marqué la fin de ce pic et les cas ne sont désormais plus comptabilisés aux États-Unis. Mais ces événements ont attiré l'attention sur les risques du vapotage. Depuis, d'autres travaux ont mis en lumière des effets jusque-là peu documentés. Des scientifiques de l'Université de la Californie à Davis, dans une étude publiée en juin, ont par exemple révélé la présence de métaux lourds, plomb, nickel, chrome, dans les vapeurs de certaines cigarettes électroniques, surtout jetables. Inhalés de façon répétée, ces contaminants issus du dispositif chauffant peuvent augmenter les risques de cancer ou de maladies respiratoires et endommager les nerfs, indique l'équipe. Une vaste analyse de l'Université Johns Hopkins Medicine, portant sur près de 250 000 personnes sur 4 ans, a par ailleurs montré cette année que l'usage exclusif de la cigarette électronique était lié à davantage de cas de bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie pulmonaire chronique qui rend la respiration difficile et qui est habituellement associée à la cigarette classique. L'étude montrait aussi une hausse modeste de la tension artérielle chez les adultes de 30 à 70 ans. Les cigarettes électroniques sont moins nocives que les cigarettes combustibles, mais elles ne peuvent pas être considérées comme sûres, souligne à Québec Science John Erebor, co-auteur de l'étude. Plus inquiétant encore, les consommateurs doubles, qui consomment à la fois cigarettes et vapoteuses, présentent des risques comparables, voire supérieurs, à ceux des fumeurs et fumeuses traditionnelles, probablement en raison du cumul des mécanismes nocifs propres à chaque pratique. Ces constats rejoignent les préoccupations de médecins d'ici. Mathieu Morissette, chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, suit depuis plus de 4 ans une cohorte de vapoteurs et vapoteuses pour comprendre les effets à long terme des liquides inhalés. Pour les affections des poumons aigus et sévères de type EVALI, on sait maintenant qu'il existe un risque faible, mais réel. Ce qui reste inconnu, ce sont les effets chroniques d'un usage de 5, 10 ou 15 ans. Nous suivons des vapoteurs depuis plusieurs années pour détecter des anomalies respiratoires asymptomatiques et comprendre comment ces anomalies peuvent contribuer au développement de maladies, souligne le professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Avec son équipe, il a récemment testé en laboratoire des arômes courants, comme la cannelle ou les agrumes, sur des cellules pulmonaires du système immunitaire. Ces composés peuvent déclencher une inflammation qui, à long terme, pourrait favoriser des maladies respiratoires. On connaît très bien les effets de la nicotine grâce aux études sur le tabac. Ce qu'on connaît moins, ce sont les effets des arômes. C'est un gros point d'interrogation, car on n'a pas d'études toxicologiques pour l'inhalation répétée de ces saveurs, souligne Mathieu Morissette. Vous écoutez le vrai visage du vapotage. Les jeunes, un groupe particulièrement vulnérable. Chez les jeunes, la situation prend une dimension encore plus inquiétante. Depuis 2019, la vapoteuse s'est imposée comme la principale source de nicotine des adolescents et adolescentes québécois, dépassant la cigarette combustible. Après une forte hausse vers la fin des années 2010, les chiffres se sont stabilisés. En 2022-2023, 16% des élèves du secondaire déclaraient malgré tout en avoir utilisé au moins une fois dans les 30 jours précédents, ce qui souligne l'ampleur du phénomène. Les dispositifs sont attrayants, faciles d'accès, peu coûteux et passent inaperçus à l'école ou à la maison. Résultat, de nombreux jeunes développent une dépendance rapide à la nicotine, observe Nicolas Chadi, pédiatre au CHU Sainte-Justine et chercheur spécialisé en toxicomanie et en médecine de l'adolescence. Dans sa pratique, il rencontre régulièrement des jeunes qui se rendent compte tardivement de l'ampleur de leur dépendance. Comme ce garçon de 15 ans qui s'inquiétait de son voyage en avion, incapable d'imaginer plusieurs heures sans vapoter. Ou encore ce coureur de 16 ans dont la toux persistante a été attribuée au vapotage. Quand il a compris le lien, ça l'a motivé à arrêter avec l'aide d'une application, raconte-t-il. Au-delà de la dépendance, l'exposition régulière à la nicotine et aux vapeurs peut affecter le développement du cerveau des adolescents et adolescentes. Une seule vapoteuse jetable de 2 ml contient l'équivalent en nicotine d'un paquet entier de cigarettes, environ 40 mg de nicotine, ce qui expose les jeunes à une quantité concentrée de cette substance très addictive. Des recherches indiquent que la nicotine perturbe la formation des circuits cérébraux responsables de l'attention, de la mémoire et du contrôle des impulsions, ce qui peut nuire à la performance scolaire et augmenter le risque de troubles de l'humeur et de comportements impulsifs. Et si les premières motivations étaient la curiosité ou l'effet de mode, l'usage de la vapoteuse s'est transformé. Plusieurs jeunes l'utilisent désormais comme un pansement pour gérer leur stress ou leur anxiété. La pandémie, avec son lot d'isolement et d'incertitude, a joué un rôle dans cette évolution, mais ce n'est pas le seul facteur. Pression scolaire, anxiété amplifiée par les réseaux sociaux et difficultés familiales alimentent aussi le recours à la nicotine. Une spirale dangereuse, selon le docteur Chadi, car la nicotine n'est pas un traitement contre la dépression. Elle peut au contraire priver les jeunes d'interventions réellement bénéfiques. Un article de synthèse publié l'an passé par The Lancet souligne même qu'au-delà des risques immédiats, le vapotage pourrait aussi faciliter l'initiation au tabac combustible chez les enfants et les adolescents et adolescentes. Ainsi, ceux et celles qui ont déjà vapoté présentent un risque plus de 3 fois supérieur de passer à la cigarette traditionnelle que les jeunes qui n'y ont jamais touché. Loi et nouvelles formes de consommation. Face à cette dépendance grandissante, les autorités québécoises tentent de réagir. En plus d'être interdite aux mineurs depuis 2015, la vente de produits de vapotage est, depuis l'automne 2023, limitée aux seuls arômes de tabac et la teneur en nicotine a été plafonnée à 20 mg par millilitre pour les liquides de vapotage. Sur le marché ou sur Internet, cependant, on trouve facilement de nombreux produits avec des dosages beaucoup plus élevés, des saveurs fruitées ou des produits dérivés, comme les rehausseurs d'arômes, ce qui complique le contrôle et maintient les adolescents et adolescentes exposés. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui ne vapote pas avec des saveurs, lance Mathieu Morissette. Malgré cela, l'interdiction envoie un signal fort en réduisant l'attrait et en freinant la banalisation du phénomène, souligne Nicolas Chadi. Aux États-Unis, des études ont montré que les restrictions sur les produits aromatisés entraînent des baisses notables du vapotage chez les jeunes, mais peuvent augmenter le taux de tabagisme, souligne pour sa part le chercheur John Erebor. En parallèle, de nouvelles formes de consommation apparaissent. Les sachets de nicotine comestible, homologués depuis 2023 par Santé Canada et vendus derrière le comptoir des pharmacies, sont présentés comme un outil pour aider à arrêter de fumer ou de vapoter. Mais ils suscitent déjà l'intérêt des jeunes et circulent aussi ailleurs que dans les pharmacies à des concentrations beaucoup plus élevées que la dose approuvée. Comme le souligne Nicolas Chadi, les grands producteurs de nicotine savent s'adapter. le tabac dans les années 1990, la vapoteuse dans les années 2010, les sachets en 2025. La nicotine se réinvente, mais elle reste hautement addictive, souligne-t-il. Les spécialistes sont donc unanimes. La lutte contre le vapotage et plus largement contre la nicotine reste essentielle. Les campagnes ciblées menées sur les réseaux sociaux par Santé Canada ou le Conseil québécois sur le tabac et la santé prouvent qu'il est possible de toucher les jeunes en les ciblant là où ils se trouvent. Christopher en est la preuve. Après avoir vu une publicité sur Snapchat où l'on montre un adolescent isolé de ses proches à cause de sa dépendance, il a eu un déclic. « Ça m'a vraiment motivé », dit-il. Depuis, il s'impose dès lundi sans vapoteuse. Une étape modeste, mais réelle, vers la maîtrise de sa consommation. Une aberration écologique. Au-delà des questions de santé, les cigarettes électroniques, en particulier les modèles jetables, soulèvent de sérieuses préoccupations environnementales. Selon un rapport récent, près de 500 000 cigarettes électroniques jetables, vape, étaient jetées chaque jour aux États-Unis en 2023. Ces dispositifs, qui ont gagné en popularité au Québec depuis 2020, contiennent une batterie au lithium, du plastique non recyclable et des composants électroniques qui ne sont souvent pas traités correctement après usage. Mal éliminés, ces vapes jetables peuvent libérer des substances chimiques toxiques dans l'environnement et contribuer à la pollution des sols et des eaux. De plus, la demande croissante en lithium, alimentée en partie par la production de ces produits, exerce une pression supplémentaire sur les ressources naturelles. Alors que de nombreux pays ont décidé d'interdire les cigarettes électroniques jetables pour des raisons tant sanitaires qu'environnementales, aucune politique de gestion des déchets spécifique n'existe actuellement au Canada et ces objets se retrouvent donc dans les poubelles ou dans la nature. C'était le vrai visage du vapotage. Un texte de Laurence Niozi paru le 9 décembre 2025 dans Québec Science.